Voilà.
Mais pire que ça, c'est un journal pro-nazi qui a incité à l'emprisonnement des Juifs en Pologne parce qu'il était édité en Pologne. Alors c'est la monstruosité totale et elle a jamais renié son grand-père et Madame Freeland. Et c'est elle qui dirige dans le fond cette politique infâme contre l'Ukraine. Et mais je voudrais donner un point de vue très équilibré, parce que ça, c'est peut-être ce qui me semble le plus effrayant. C'est que les médias, non seulement ils censurent des artistes parce qu'ils sont russes ou je sais pas quoi, mais ils censurent des opinions qui sont pour la paix. Et ça, c'est dramatique, parce que comment veut-on informer? Heureusement, on a la radio CPAM pour le faire, parce que, franchement, moi, je veux juste vous lire, j'ai traduit un texte de Noam Chomsky, pour lequel j'ai le plus grand respect.
Vas-y, moi aussi.
Il dit, je voudrais accentuer le point crucial qui doit être inscrit au fronton de toutes les discussions sur cette terrible tragédie qui se déroule en Ukraine. Nous devons trouver une façon de terminer cette guerre avant qu'elle n'escalade dans la destruction totale de l'Ukraine et vers une catastrophe inimaginable au-delà. Évidemment, il laisse planer le spectre des bombes nucléaires. La seule issue est un règlement négocié. Et je me souviens qu'il y a deux semaines, Donald nous disait qu'il écoutait religieusement, je excuse le terme, CNN, et que jamais, à sa connaissance, CNN n'avait abordé le sujet de négociation. Donc c'est une façon de garder dans l'ignorance tout le peuple américain de cette issue possible. Et Chomsky continue. Qu'on l'aime ou pas, ce règlement doit inclure une sorte d'échappée pour Poutine, où le pire arrivera. Pas lui offrir une victoire, mais une échappée. Ce genre de souci doit gouverner nos esprits. Les remarques de Zelensky ont reconnu que joindre l'OTAN n'est plus une option pour l'Ukraine. Il a aussi insisté à bon droit que l'opinion des gens dans la région de Donbass, occupée par la Russie, devrait compter comme un facteur critique en vue de déterminer le règlement. Bref, Zelensky répète ce qui aurait été un sentier de prévention de cette tragédie. Même si nous ne pouvons pas le savoir, puisque les États-Unis ont refusé d'emprunter ce sentier. Je cite encore Chomsky. Selon notre compréhension de longue date, de décennies en fait, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait en quelque sorte comme voir le Mexique se joindre à une alliance militaire menée par la Chine avec des manœuvres communes avec l'armée chinoise en gardant des armes de destruction massive visant Washington. Si on insistait pour le droit souverain du Mexique d'agir ainsi, on serait au summum de l'idiotie. L'insistance de Washington à appuyer le droit souverain de l'Ukraine à se joindre à l'OTAN est pire encore, car elle érige une barrière insurmontable contre une résolution pacifique d'une crise qui est déjà...
Téléphone. Alors, messieurs, c'est profitons-en, pendant que Pierre n'est pas là, et pour dire un mot. Vas-y, Donald.
Moi, c'est ça. J'aimerais ça revenir avec Claude... Ici, capable de faire le parallèle, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine avec tout cet embrouillou-là qui a finalement été provoqué par Joe Biden. Puis de l'autre côté, comment les États-Unis ont traité le Venezuela pendant tant d'années, sur Hugo Chavez et par la suite contre nous. On peut faire un parallèle, là. C'est, pour moi, ça démontre, puis sur ça, je vais te laisser de développer. Donc, c'est là pour moi, ça démontre à quel point. Les États-Unis sont prêts à faire les guerres n'importe où, n'importe comment, sur le dos des peuples vénézuéliens et sur le dos des Ukrainiens pour maintenir son pouvoir hégémonique sur la planète. Exactement les sanctions que les États-Unis ont imposées contre le Venezuela avaient comme objectif de faire tomber le gouvernement à Caracas, donc Maduro, qui était le successeur de Hugo Chavez, et en utilisant la population vénézuélienne, en la rendant à l'infamant, en la faisant désespérer de son avenir à coup de ses sanctions, afin que l'armée se stylise et lâche Maduro et soutienne Guaido. Donc, c'était un changement de régime qui était visé par tout ce train de sanctions mis en place depuis 2017 et qui ont eu un effet considérable sur la santé économique et la santé, bien simplement, de la population vénézuélienne. Or, la même chose est utilisée contre la Russie en utilisant l'Ukraine et en se battant jusqu'à la mort du dernier Ukrainien, si l'on veut, pour pousser de l'avant un projet qui était déjà bien ficelé dans un rapport publié en mai 2019 par la Rand Corporation qui insistait sur le fait que la Russie était un exportateur de pétrole et de gaz et c'était à la fois son atout et sa vulnérabilité et qu'un système des sanctions aurait un grand effet sur la Russie. Deuxièmement, on disait que le cœur d'une stratégie était l'Ukraine en poussant l'Ukraine à demander et à admettre dans l'OTAN et à détruire aussi l'image de la Russie à l'échelle internationale. Or, ce qui est en train de se faire est exactement l'application de ce que proposait la Rand Corporation il y a 2 ans et demi dans son rapport à la demande du Pentagone. Ça a été publié, j'ai le texte, ça fait le résumé, fait à peu près 40 pages, et c'est, non, 18 pages, pardon, le résumé, et c'est exactement la ligne qui était proposée, c'est celle-là qui s'applique présentement. C'est pour ça qu'on voit comment les sanctions sont considérées comme la façon de démolir un pays en utilisant la population qui est victime contre le gouvernement de ce pays qu'on diabolise, parce que Maduro, rappelons-nous, était diabolisé, on le considérait comme un corrompu, on le considérait comme un usurpateur, et c'est de cette façon qu'on voulait, et on a même mis sa tête à prix, puisqu'on offrait 15 millions de dollars pour sa capture.
Monsieur, je pense, attends une seconde, je pense qu'on a eu Pierre. Pierre,
oui.
Pierre, tu es revenu?
Ben, j'ai été coupé d'une façon inexplicable. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aimaient pas beaucoup ce que j'étais en train de vous dire.
Mais Pierre, tu as des problèmes avec eux, Pierre. En tout cas, Pierre, je suis content, en fait, que tu sois là avec nous parce que tu étais en train de lire cette lettre de Noam Chomsky.
Oui, mais j'avais terminé tout juste.
Ok, tu avais terminé. Mais je sais, est-ce que tu sais à quel moment que tu nous as perdu? Je ne suis pas sûr, moi. Tu savais à quel moment que tu nous avais perdu?
Ben non, j'ai pas même noté l'heure.
Ok, non, mais c'était juste pour savoir, est-ce que tu es sûr d'avoir tout lu? C'est ça mon problème.
Oui. Okay, non, parfait. Ça, je suis sûr. Je venais de terminer le dernier mot.
Ok, parfait. Tu sais que, parce que moi, j'ai presque tous les livres de Noam Chomsky chez moi, donc c'est quelqu'un que j'apprécie. Et beaucoup. Donc, alors là,
Mais la question que je viens de poser à Claude par rapport à la façon que les États-Unis ont travaillé contre Chavez et Maduro pour rendre le peuple finalement pauvre sur le dos des Vénézuéliens pour faire tomber le gouvernement là-bas, on voit la même chose de l'autre côté en provoquant cette guerre-là et sur le dos des Ukrainiens pour éventuellement affaiblir la Russie sur son gaz naturel, son pétrole, puis même, Claude avait mentionné qu'il y avait un rapport en 2019 de la Rand Corporation qui disait que c'était la stratégie pour affaiblir et même renverser la Russie. J'aimerais ça que toi, Pierre, tu nous expliques comment tu vois ce parallèle-là, finalement, entre ce que les États-Unis ont fait sur plusieurs gouvernements et plusieurs présidents, vis-à-vis de ce qu'on a peut-être eu en otage, le peuple vénézuélien, mais de l'autre côté, on fait aussi la même chose en otage du peuple ukrainien aussi.
Oui, mais écoutez, ce que les États-Unis font actuellement, ce qui est, à mon avis, criminel aussi, parce qu'il faut bombarder ou de faire des attaques. Pourquoi? Parce que c'est le seul domaine dans lequel les États-Unis ont un avantage sur la Chine. Ils ont plus d'armes, ils ont plus d'armes nucléaires, ils ont plus d'armes en tout, ils ont plus d'armées, mais ils sont complètement dans le trou si on regarde économiquement. Alors, c'est la seule façon pour eux d'essayer de s'imaginer qu'ils sont encore la première puissance au monde. Je ne le crois pas personnellement. Et c'est dramatique quand notre pays, le Canada, s'aligne sur une politique aussi dangereuse, aussi agressive. Et c'est triste et à la fois c'est risible. Quand vous regardez Radio-Canada cet après-midi à la télévision, puis dans la bande passante en dessous des nouvelles, vous aviez à toutes les deux minutes la manchette absurde suivante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit croire, ouvrez les guillemets, personnellement, fermez les guillemets, que la Russie a commis, ouvrez les guillemets, des crimes de guerre, fermez les guillemets, en Ukraine. Je m'excuse, mais Anthony Blinken est le secrétaire d'État d'une puissance qui contrôle la CIA et tout simplement. Et puis là, on veut essayer de rescaper des paroles extrêmement non diplomatiques et regrettables de Biden, qui a accusé Poutine non seulement de criminel de guerre, mais d'être un thug, c'est-à-dire un voyou. Enfin, bref, c'est plus de la diplomatie, là, on envoie des insultes. C'est comme si les réseaux sociaux ont pris la main sur tous nos politiciens, tout notre système politique. Et c'était le spectacle navrant qu'on a vu dans la Chambre des communes aussi au Canada mercredi, où tous les porte-paroles, sauf peut-être quand même Yves-François Blanchet a parlé, qui désirait des négociations équilibrées. Et bien sûr, mon ami Elisabeth May, qui est une collègue chez Pogouache, a fait un très beau discours aussi en disant qu'il faut utiliser tous les moyens pacifiques pour essayer de faire en sorte que cette guerre cesse. Mais Radio-Canada est devenu folle. C'est complètement... Quand vous regardez, ils ont par exemple recruté Gérard Filion, qui n'a aucune compétence en domaine international, qui est un excellent économiste, enfin un excellent commentateur économiste. Je ne suis pas d'accord avec ses solutions capitalistes, mais ils l'ont recruté pour dire vraiment, vraiment des bêtises. C'est lui qui, entre autres, avant-hier soir, il disait, attendez, je retrouve mon... Oui, il disait que les armes promises aujourd'hui par les États-Unis vont aider évidemment l'Ukraine. Et il suggère de permettre aux avions de chasse polonais de transiter vers l'Ukraine. Et dont le président veut une nouvelle alliance militaire contre la guerre et l'OTAN. Alors, il émet enfin l'hypothèse que la Chine et même l'Iran sont probablement en train de s'impliquer en aidant la Russie, ce qui a été bien sûr démenti. Alors, je m'excuse, mais des commentaires comme ça, ça ouvre la porte à une troisième guerre mondiale.
La guerre nucléaire, oui.
Mais, monsieur
Biden, il dit, je ne ferai jamais ça, parce qu'on est déjà sur le bord du précipice. Si on commence à envoyer des avions polonais, si on commence à fermer le no-fly zone, On s'en va.
Oui, mais monsieur, ce que j'aimerais souligner, parce que Pierre a cité un nom, et Gérard Filion, c'est quelqu'un qui s'occupe de la finance en tant que journaliste financier économique à Radio-Canada. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qu'on connaît comme spécialiste de la guerre. Non. Donc c'est pour montrer la démesure aujourd'hui. C'est-à-dire,
le désarroi.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps, on devient sourd, on perd le bon sens. C'est-à-dire, alors qu'il y a plein d'intellectuels ici, il y a plein de spécialistes ici dans ce domaine. Faisons venir les gens qui ont des choses à dire, plutôt que de faire venir n'importe qui pour dire n'importe quoi, ou du moins dire ce qu'on veut bien entendre. C'est là aussi, moi, je comprends qu'il faut, nous, que nous fassions la différence par rapport... Et c'est pour cette raison, à Cabaret des Idées, et c'est sans problème. Les gens disent ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou. Les gens s'expriment parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut parler dans une société, entre guillemets, libre. Alors, messieurs,
j'ai une question à poser à Claude puis à Pierre aussi. Avez-vous confiance à Zelensky? Moi, je l'ai écouté devant le Congrès américain via vidéoconférence, qui demandait finalement un no-fly zone. Pourtant, deux jours avant, il avait demandé peut-être que je serais ouvert à un cessez-le-feu. Là, je ne le comprends plus, cet homme-là. Fait que je parle de toi. Je vais demander à Pierre avant qu'est-ce qu'il pense de Zelensky, puis après ça, je vais demander à Claude qu'est-ce qu'il pense de Zelensky.
Écoutez, moi, je pense qu'au départ, c'est quelqu'un, quand même, qui s'est présenté dans des élections pour empêcher Borokovski et toute la gang nazie du Maïdan de reprendre le pouvoir. Et donc, il avait de bonnes intentions. Le problème, c'est qu'il est extrêmement mal conseillé et que de se faire inviter à parler à la Chambre des communes, puis surtout au Congrès américain comme mercredi et jeudi, ça lui tourne la tête parce que ces puissances-là, au lieu de conseiller, de lui dire ben, « engage-toi dans une négociation », donne à la Russie ce qu'elle veut, c'est-à-dire de renoncer à l'OTAN, ce qui est une chose très raisonnable, que ton pays devienne neutre. Au lieu de le conseiller à ça, lui disent « Ah, on t'envoie $1 milliard en armes anti-aériennes, anti-chars, les plus modernes, les plus létales. » Et donc, il est actuellement, je pense qu'il est complètement... la tête lui tourne. J'ai pas non plus entière confiance en un président ukrainien qui a un appartement de luxe à Londres actuellement et puis donc qui a lui pour lui-même des portes de sortie. Évidemment, la propagande le présente comme le grand défenseur du peuple et le grand représentant de tous les Ukrainiens. Il se présente en t-shirt kaki pour bien montrer qu'il est derrière les gens qui œuvrent dans la résistance. Mais en quelque part, moi, c'est ça que je trouve épouvantable, c'est qu'on est en train de dire que la résistance, c'est d'avoir les têtes brûlées, les têtes chaudes, et c'est ce que aussi Martine Defoy, la commentatrice de Radio-Canada, a dit. Ah, c'est formidable, Zelensky parle avec son cœur, avec ses tripes. On n'a pas besoin de chefs d'État qui parlent avec leurs tripes. Les réseaux sociaux font ça, parler avec leurs tripes. Les chefs d'État, ils doivent calculer, ils doivent voir ce qui est de l'intérêt de leur peuple, de l'intérêt premier. Mais enfin, j'aimerais entendre de Claude là-dessus.
Oui. Pour moi, Zelensky, c'est un acteur formidable. Je pense qu'il est, il a du talent pour ça. Il joue le rôle de sa vie, mais sans aucune compétence politique et géopolitique, il est en train de souffler le chaud et le froid. Le chaud, c'est d'accepter, de demander, d'accepter des armes, de demander une exclusion de vol au-dessus du territoire pour pouvoir détruire les avions russes qui pourraient lancer des bombes. Mais d'autre part, il dit aussi que non, on a compris qu'il n'y aura pas, qu'on ne pourra pas entrer dans l'OTAN. Alors, il navigue entre des positions bellicistes sans aucune perspective de négociation sérieuse. C'est pour ça qu'actuellement, l'Ukraine n'a proposé rien de concret pour une sortie de crise lors des rencontres que la partie ukrainienne a avec les émissaires russes. Et on est dans une situation où il me semble que, comme tu dis, il est devenu une marionnette des États-Unis, tout en voulant sauver sa réputation auprès du public ukrainien. Je crois cependant qu'à l'origine, il pouvait proposer une meilleure relation avec Moscou, mais il a à faire face aussi à des ultras dans son gouvernement, et ces ultras, ils veulent la guerre, ils veulent en finir avec les Russes et les Russophones, et ils auraient même été menacés s'ils ne cédaient pas à leur position. Donc, il est un peu il balance entre une position où il défend les intérêts de son pays, de son peuple, mais d'autre part, il joue le jeu des États-Unis, puisque les armes qu'il reçoit et qu'il demande sont des armes qui prolongent la guerre, qui font de plus en plus de victimes et qui font de plus en plus de destruction du pays, et du même coup, qui aussi affecte la Russie, affecte la capacité de la Russie d'aller au-delà de ce conflit. Et ça fait exactement la politique et la stratégie de Washington.
Alors, Pierre, et Donald, tu as dit, et Pierre a dit tout à l'heure, hein, que Zelensky a pris le pouvoir, dans un premier temps, c'était pour empêcher que les ultras prennent le pouvoir. Mais je ne suis pas trop sûr dans la mesure où, depuis 2014, c'est-à-dire en Donbass, donc les Ukrainiens combattaient les pro-russes là-bas. Par contre, les néo-nazis qui étaient à Maïden sont inclus dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'ils ils occupent des postes assez importants dans l'armée ukrainienne. Donc, il ne s'agit même plus, comme avant, des groupes isolés ou bien des groupes séparés. C'est des gens qui font partie de cette armée. Donc, ils s'y accommodent. Ils savaient que ces gens-là étaient des gens qui avaient fait du mal aux Juifs en tant que d'origine juive. S'il n'était pas tout à fait, si ce n'est pas le pouvoir qui l'intéressait, il aurait dû, dès le départ, se démarquer de ça. Moi, je ne suis pas sûr que c'était ça, son objectif premier, c'était ça, mais il y avait des velléités du pouvoir. Bon, je comprends, mais par contre, il y avait d'autres choses que Zelensky ne nous disait pas.
Oui, mais il ne faut pas lui jeter la pierre complètement, parce qu'il est au pouvoir depuis 2 ans et demi.
Rassembler les deux moitiés de l'Ukraine, les Ukrainiens de l'Ukraine, et les Ukrainiens russophones. Or, ce n'est pas ça du tout. Il a contribué à diviser encore plus l'Ukraine en deux parties, l'Est et l'Ouest, et avec aussi tout le ressentiment accumulé du côté Ouest contre la Russie, on a une situation de conflit qui n'a pas de solution autre qu'une négociation avec des intervenants. Il n'a jamais voulu, est-ce qu'il le pouvait, il n'a jamais voulu appliquer les accords de Minsk, à la fois les accords, les premiers et les seconds, qui avaient été quand même des accords pensés avec la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Et ça aurait été une solution de compromis et qui aurait pu préserver l'avenir.
Alors, monsieur,
il est... dans le sens de rassemblement des deux moitiés de l'Ukraine.
Alors, je rappelle, madame, monsieur, on a Donald Cucioletta, qui est le maître à bord de cette émission. Il y a Claude Morin, notre invité. Il y a Pierre Jasmin, notre invité. Alors, monsieur, il est 19h29. D'ici peu, on va aller en pause. Mais j'aimerais, pour aborder la dernière demi-heure, donc, qu'on voit comment ça va finir. Si vous avez des boules, je ne sais pas si vous avez des moyens de voir à quoi vous vous attendez dans les prochains jours, et pour ne pas dire les prochaines semaines. Et après, on verra. Alors, je ne sais pas, parce qu'il est quelques... Voilà, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. C'est toi, Donald?
Je laisse là à Claude puis Pierre.
OK, OK. OK, parfait. Vas-y, Claude.
À court terme, je pense que ça dépend de ce qu'on entend par le court terme, mais ça ne durera pas des mois. Il va y avoir à la fin une négociation, il va y avoir des compromis. C'est inéluctable et c'est la seule façon de mettre fin à ce conflit.
c'est d'arriver à une entente qui assure la sécurité de la Russie et assure aussi la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. Je crois que les deux, ce sont les deux éléments clés de toute négociation à venir. Maintenant, si on regarde du point de vue des États-Unis, je crois qu'ils aspirent à profiter de ce conflit pour éliminer un rival, de manière à n'avoir qu'un seul rival mondial, la Chine. C'était la construction qu'était en train de faire l'administration Biden en coalisant la Grande-Bretagne, l'Australie sous son égide contre la Chine. Or, actuellement, il y a une sorte de dévoiement avec ce conflit avec la Russie. Mais la Russie, ils aspirent à l'éliminer du dossier en utilisant l'Ukraine comme comme bélier. Et c'est ce qui est totalement cynique.
Alors, Pierre?
Oui, c'est navrant, effectivement. Moi, je suis toujours mal à l'aise avec des exercices qui essaient de deviner vers quoi. Mais tu m'as lancé une perche, mon cher Ismaël, en disant ce que devrait faire, pas ce qui va arriver, forcément. J'aimerais bien aussi qu'on cesse d'avoir cette foi aveugle de nouveaux riches qui croient que des sanctions économiques naïves, par exemple, contre les membres de la Douma d'État russe, vont donner quelques résultats que ce soit. Même Raphaël Jacob et Valérie Beaudoin de la chaire Raoul Danturan, qui ont quitté, embarrassé la fameuse entrevue avec M. Filion, en disant qu'ils préféraient remettre leur réponse le lendemain, mais je ne les ai pas vus le lendemain. Alors, même eux ont douté que les sanctions donnent quelques résultats que ce soit. Moi, je vous réfère à un excellent article écrit par mon collègue, qui est aussi le webmestre des artistes pour la paix, Christian Morin, qui est le fils de ce grand ministre de l'administration de l'évêque. Pas ton homonyme, Claude, mais c'est le fils de celui qui était aux affaires étrangères pour le premier gouvernement Lévesque. Et il a écrit un article avec Olga Chisholm, qui est assistante professeure en sciences politiques à l'Université de Toronto, et qu'il a intitulé « À la santé des oligarques », qui est un peu empreint de cynisme, mais c'est de voir dans le fond que ces sanctions économiques vont pas vraiment changer quoi que ce soit. C'est navrant que le Canada soit entré aussi dans cette valse de sanctions économiques, pas seulement contre la Russie, mais qu'ils l'ont appliqué auparavant contre le Venezuela, contre Cuba, contre l'Iran, contre toutes sortes de pays appauvris par cette attitude, encore une fois, vraiment épouvantable de notre pays, d'attaquer des gens parce qu'ils ont des opinions politiques différentes.
Mais Donald, tu m'as dit que les invités, c'est nos invités, je suis d'accord avec toi, ils doivent, tu veux qu'ils parlent davantage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors Claude, Donald t'a posé beaucoup de questions sur le Venezuela, mais moi j'ai cette petite question que j'aimerais te poser Claude, et peut-être Pierre va répondre aussi, je ne sais pas. Quel doit être le comportement du Venezuela, sachant que la Russie, c'est ce qui a quelque part sauvé Maduro? Sauver le Venezuela, parce que quand je dis sauver le Venezuela, parce que le peuple vénézuélien est derrière Venezuela. Si le peuple vénézuélien, l'armée vénézuélienne n'était pas là, donc Maduro ne serait pas là. Donc moi je dis, quel doit être le comportement? On sait que, dit-on, un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que j'ai vu le contraire avec des pays comme Cuba, le Venezuela. Mais grosso modo, admettons que c'est le cas. Quel doit être le comportement du Venezuela dans ces négociations? Est-ce que le Venezuela doit, parce que le Venezuela souffrait, si il y a une ouverture et laisser tomber la Russie, sachant qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? Ces gens-là avaient vraiment attiré Kadhafi qu'on considérait comme un terroriste, après, ils l'ont assassiné. Quel doit être le comportement du Venezuela, Claude?
Cette semaine, il y a eu le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, qui s'appelle Félix Plasencia, qui a dit que le Venezuela ne livrerait pas de pétrole sans que les États-Unis reconnaissent Maduro et lèvent les sanctions. Alors, on ne croit pas que les États-Unis sont prêts à lever les sanctions. L'opposition intérieure à la politique des États-Unis à cet égard va faire que Biden ne fera pas ce pas-là. Ce qu'il peut faire, c'est de permettre, de donner un permis d'exportation de Chevron, qui est une compagnie pétrolière aux États-Unis, qui a des concessions au Venezuela et qui pourrait s'occuper de la livraison de pétrole vénézuélien, mais qui ne passerait pas par le PDVSA. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement vénézuélien fera dans ce contexte. Est-ce qu'il acceptera qu'une compagnie étrangère œuvrant au Venezuela puisse vendre le pétrole vénézuélien aux États-Unis sans que le pays soit le maître d'œuvre de l'exportation? On parle seulement d'environ 500 000 barils par jour dans ce cas-ci. Par contre, dans les conversations que Maduro a eues avec Poutine, il est clair que l'on appuie la Russie contre les sanctions. Mais, et je reconnais aussi que la Russie a eu un rôle important à jouer pour maintenir Maduro avec livraison d'armes et aussi la compagnie Rosneft, qui était une compagnie pétrolière russe, qui a aussi travaillé avec PDVSA pendant les premières années, mais c'est terminé maintenant. Et c'est plutôt la Chine qui sert de soutien à l'économie vénézuélienne avec des prêts à long terme. Mais dans un premier temps, la Russie a joué un rôle important et le Venezuela ne peut pas trahir ce qui a été un allié à une étape importante maintenant que la situation s'améliore au Venezuela sans que les sanctions n'aient été levées. C'est la considération qu'il faut faire. Il y a un seul élément qui m'apparaît positif depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, c'est qu'on a écarté totalement l'option militaire. Alors que Trump jouait sur tous les tableaux et disait que toutes les options étaient sur la table de manière à à maintenir une instabilité quant à ce que les États-Unis pouvaient faire contre le Venezuela.
On a même découvert un complot. On a même découvert un complot. C'était en Argentine que cela se préparait pour envahir le Venezuela.
Oui, c'était à l'époque de Trump. Un détachement de services spéciaux, de commandos argentins, devait intervenir au Venezuela. J'ai lu une description de ça, ça me paraissait totalement loufoque. Un peu comme la tentative en mai 2020 d'un commando qui est parti de la Colombie, qui est débarqué sur les côtes vénézuéliennes avec comme objectif de se saisir de Maduro ou, si ça tournait mal, de l'assassiner de manière à mettre fin à la présidence Maduro. Ça a été écrasé dans l'espace de plus de 48 heures.
En effet. Pierre.
Oui, écoute, Claude, tu as tellement raison de souligner que tout est possible dans le domaine du pétrole, parce que tous ces gens-là ont des principes de dire qu'il faut ceci, il faut cela. Mais le pétrole, il y a des exceptions. On a vu même ici à Montréal que Suncor, Trudeau lui a donné la permission à la compagnie de pétrole Suncor de décharger un cargo russe avec sa caisse, sa cargaison, parce que, bien sûr, il y a une exception en ce moment-là pour le pétrole. Alors, je pense qu'il faut absolument, à un moment donné, que le monde revienne à des règles imposées par l'ONU. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé à l'Ukraine de détruire d'éventuels pathogènes qui sont très dangereux dans ces laboratoires pour éviter tout risque de contamination de la population à cause de la guerre. Et puis, sur le Conseil de sécurité a été saisi d'une affaire délicate sur cette présence potentielle de laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Et l'ambassadeur de Chine à l'ONU, Zhang Jun, a noté avec inquiétude les informations pertinentes publiées par la Russie et estimé qu'elles devraient être correctement traitées. Et finalement, à cela, j'ajoute nos vives inquiétudes, heureusement qu'elles sont un peu moins vives aujourd'hui, mais qui avaient été soulevées par mon ami Gordon Edwards à propos des deux centrales nucléaires ukrainiennes, dont l'une, la célèbre Tchernobyl, a été sans électricité pendant plusieurs jours pour alimenter son système de refroidissement. Heureusement, il semble que l'électricité a été rétablie par les Russes qui l'ont occupée.
Et Donald, c'est Mme Nuland qui a confirmé qu'il y a 12 trucs biologiques en fait en Ukraine. C'est Mme Nuland, c'est une personnalité très importante aux États-Unis.
Oui.
C'est elle finalement.
C'est elle qui a un peu organisé dans directement le coup d'État de Biden en février 2014.
Exactement, exactement.
Ouais. Et elle fait partie d'un couple qui sont des faucons, des guerriers, et qui ont la Russie dans le collimateur. Donc,
absolument. 2014 sous Obama, puis par la suite, c'est M. Biden qui était le premier. Quand il créait ses conseillers et son cabinet, c'est la première personne qui l'a été chercher pour qu'elle vienne travailler au niveau de son conseiller, au niveau particulièrement toute cette partie-là du monde, la Russie, l'Ukraine, la Pologne et tout le reste. C'est elle, c'est lui qui est allé chercher elle, madame. Puis effectivement, c'est quelqu'un qui est un faucon, un hawk qu'on appelle finalement, puis qui n'a pas peur de dire que finalement il faut aller à la guerre. Effectivement, c'est tout à fait ça qui s'est passé, puis c'est ça qui a fait. Puis elle a été la stratège hein, derrière tout ça aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui croit à la guerre, mais c'est quelqu'un qui est un fin stratégiste aussi. Elle sait comment lire les choses. Elle comprend très bien les langues dans ce coin-là. Non, c'est quelqu'un qu'effectivement, les présidents des États-Unis se sont tous entourés. Puis dans ce cas-ci, ça se donne, c'est ça se trouve être une femme. Oui, une femme.
Mais... quel est l'intérêt? Pierre.
J'ajoute un élément, et de donner comme commentaire qu'il ne fallait surtout pas que les Russes puissent accéder à ce qui se fait, à des éléments pathogènes dans ces laboratoires à la faveur de la guerre.
Mais Pierre, quel est l'intérêt de l'Ukraine? Pierre, quel est l'intérêt de l'Ukraine de posséder tous ces laboratoires là-bas? Est-ce que c'est l'Ukraine qui avait ça ou bien les États-Unis qui avaient ça là-bas?
Non, je pense que c'est... Vous savez que l'Ukraine avait d'excellents liens avec la Chine aussi. Donc, non, ce sont des intérêts ukrainiens et qui, hélas, sont partagés par pas mal de pays. C'est pour ça que c'est un danger permanent, tout ça, et qu'il faut revenir à un état de règlement mondial et que... Parce que présentement, l'ONU est complètement écartée et surtout le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU qui voit le combien il y a de quoi maintenant. Ils sont rendus à 3 millions qui sont sortis d'Ukraine. Et c'est pour ça que le règlement, un règlement de paix doit s'effectuer maintenant, aujourd'hui, en fait demain ou après-demain, parce que à partir du moment où il va y avoir des grandes architectures ukrainiennes qui vont s'effondrer à Kiev, parce que présentement la Russie canarde des positions militaires à Lviv et puis en banlieue de Kiev et en banlieue d'Odessa, mais s'ils s'attaquent à toutes ces grandes architectures célèbres d'Odessa et de Kiev, là la guerre va entrer dans cette destruction totale comme on a vu en Afghanistan, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce conseil de Karzai, de dire attendez pas, parce que on est tous en train de dire que ça va finir bientôt, mais regardez, qu'en 79, quand ça a commencé la guerre en Afghanistan, là, ça s'est terminé après 43 ans par un pillage et puis une destruction totale du pays. Et il ne faut pas que ça arrive à l'Ukraine. Et c'est pour ça que actuellement, nos médias, à part vous, CPAM, que je remercie encore une fois, les médias censurent même les progrès qu'il peut y avoir dans les négociations. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant quand on vous est rendu avec l'esprit de revanche ou de vengeance contre le méchant Poutine, et que ça obscurcit le cerveau de nos dirigeants. C'est aberrant, c'est quelque chose de... Enfin, je les appelle à revenir de cette pensée en tunnel qui leur font oublier l'essentiel.
Et Donald, où est la fameuse, où est Donald, la fameuse, en fait, société civile mondiale qu'on voyait au devant de la scène dans tout, dans tout, dans tout? Où
c'est
se trouve
société? C'est comme toute société civile internationale, il est divisé. Mm-hmm. Mais effectivement, ils ont quand même, en général, le cœur à la bonne place. Écoutez, le peuple de ce monde regarde la façon qu'on utilise la mort sur le peuple ukrainien, et c'est sûr qu'ils ont de sympathie envers eux. Mais comme tu as dit au tout début, et c'est pour ça qu'on fait venir Pierre et Jasmin et Claude Morin, c'est pour expliquer pourquoi ça arrive. Mais les gens normalement, les gens de tous les jours, ne comprennent pas ce qui se passe là-bas, qui ne lisent pas ces choses-là. Puis ça prend du monde qui lise, comme nos deux invités, régulièrement des textes, des livres, des analyses. Pour comprendre ça, c'est très, très complexe, puisque notre monde est devenu de plus en plus complexe. Donc, ces gens-là regardent la télé comme tout le monde, ils vont chercher ça aux télévisions, puis ils voient les morts, les Ukrainiens sont en train de se faire écraser. Fait qu'ils ont une sympathie tout à fait normale. Puis, effectivement, on est élevé à la télévision à travers le monde entre les Indiens et les cow-boys. Hein? J'ai été élevé là-dedans. Fait qu'on cherche toujours le coupable. On cherche le coupable. Fait que moi, je suis cow-boy, le coupable, c'est l'Indien. Dans ce cas ici, le pauvre ukrainien est en train de faire écraser. Donc, qui est le coupable? Ben, c'est l'Indien. C'est Poutine. Nous, on est du bon bord. On est des cow-boys. C'est le même concept. Ça revient, tout ça. Et le monde le dit. J'ai donné des conférences la semaine passée, justement, sur cette question-là de l'Ukraine. T'allais dire à le monde, ah, comment ça, on peut pas être... Faut être contre Poutine. Faut être contre Poutine. Regarde ce qu'il fait au peuple. Je dis, mais savez-vous pourquoi tout ça arrive? Personne ne le savait. Personne ne pouvait me répondre une question par rapport à est-ce que vous avez lu quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce que vous avez suivi un peu? Rendez-vous. Personne. Mais voyait à la télévision, puis écoutait Radio-Canada, là, 90% des gens étaient là, écoutaient Radio-Canada. Effectivement, pour eux, c'était la sympathie envers le peuple ukrainien, qu'on a tous, d'ailleurs. Mais nous, on essaie d'avoir derrière tout ça, mais en même temps, de l'autre côté, c'est qui la faute? Ah, c'est l'Indien, là. C'est Poutine. Donc, il faut arrêter Poutine, il faut faire la guerre, il faut le détruire. Mais il y a du monde dans la salle qui me disait qu'il faut envoyer la CIA pour l'assassiner. Comme ça,
Mais messieurs,
c'est la réalité de notre monde.
Oui, mais il faut être d'accord. Il faut être d'accord que les gens sont aliénés maintenant. C'est-à-dire, on fait tout pour que les gens perdent ce qu'on appelle l'esprit critique, un peu de conscientisation. C'est-à-dire, les gens, c'est les petites choses qui les intéressent en particulier. C'est pas, je ne dirais même pas que les intéressent. Ils n'ont, c'est comme si ils ne prennent pas le temps de réfléchir, messieurs. Donc, il est 19h52, messieurs.
C'est dur de briser ça, Ishmael. Oui. Parce que quand tu sais, comme Dieter Barre l'avait dit en 1966, nous sommes rentrés, et n'oubliez pas, en 66, nous sommes rentrés dans la société du spectacle. Mm-hmm. Quand on regarde nos télévisions, que ce soit Radio-Canada, que ce soit CBC, que ce soit CNN, Fox News, peu importe, le 24 sur 7, ces gens-là regardent ça comme s'ils regardaient un cinéma. Mm-hmm. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Donc, ces gens-là sont aliénés par la société du spectacle. L'information, partout dans le monde, est devenue un spectacle. La guerre, la partie de l'information, est devenue un spectacle aussi. Donc, les gens sont devant le téléviseur et regardent la guerre. Ils regardent la guerre.
Alors que c'est formé devait être un droit. Vas-y, Claude.
Il y a aussi l'application du schéma binaire. Il y a les bons, il y a les mauvais.
Oui.
L'information est livrée de telle façon à ce qu'il y a un formatage. Et dans ce formatage, il y a une position qui est adoptée, et cette position est adoptée en dehors de toute prise en considération de la complexité des choses. Alors, il faut simplifier les choses. Il faut donc qu'il y ait un bon côté et qu'il y ait un mauvais côté. C'est le schéma binaire qui s'applique. Alors, dans ce cas-ci, on a voulu prétendre que Poutine était fou. Il faut être fou pour ça. C'est comme s'il n'y avait aucune raison de défendre sa position, qui est la position de la Russie dans ce conflit.
J'ai entendu pire que ça.
Il a raison de déclencher une guerre, mais sa position doit être vue comme quelque chose qui est peut-être raisonnable, même si le moyen qu'il prend est totalement déraisonnable.
Tout à fait. J'ai entendu pire que ça, monsieur. Vous savez ce qu'on m'a raconté? J'ai entendu trois personnes et qui normalement s'informent, tout ça, qui disent que Poutine, il est malade d'un cancer en phase terminale, donc il s'en fiche de sa famille, donc il va utiliser l'arme nucléaire, il s'en fiche puisqu'il sait qu'il va mourir de tout. Vous voyez jusqu'où les gens peuvent aller?
Oui, mais le pire, c'est dans les réseaux sociaux, bon, les pauvres gens qui voient ces images à chaque minute, nos télévisions de gens qui souffrent sous les bombes. Et comme dit Donald, c'est comme humain de prendre ça. Bon, mais ça, c'est le méchant indien Poutine et tout ça. Sauf que vous voyez aussi des gens quand même éduqués, comme ce professeur de Harvard, l'ancien chef libéral Michael Ignatieff, qui est allé dire la connerie la pire que j'ai entendue, c'est de dire envoyons une bombe atomique sur la Russie, puis ça va régler la question. C'est inimaginable quand vous voyez des gens, soi-disant de l'élite, qui sont rendus à un tel aveuglement. C'est effrayant. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment avoir de perspective d'avenir autre que dire « Hey, revenez à vous, essayez de regarder ceux qui souffrent, les réfugiés, les gens qui sont tués dans les tranchées actuellement, et puis de dire ben, il n'y a qu'une façon de régler ça, et ça, Chomsky et tous les gens intelligents le disent, il faut aller en négociation, et vite et rapidement, et puis il faut jeter du lest à cette négociation.
C'est pour ça que je blâme beaucoup les postes de télévision, particulièrement Radio-Canada, qu'est-ce qui dessert le Québec, puis même CBC, c'est la même chose, News World, c'est la même chose, c'est que ces gens-là, en refusant de parler de paix, puis de mettre de l'avant la possibilité que les gens se rencontrent pour la paix, pour qu'on arrête ce massacre-là en Ukraine, ils font partie de ceux qui continuent à provoquer la guerre, selon moi.
À nourrir la haine.
Si on ne fait pas le discours pour la paix, c'est la guerre qui gagne constamment. Donc, le discours de paix doit toujours arriver de tout le monde, particulièrement les gens qui ont le micro devant eux, puis qu'au moins ils disent, il y a la guerre, mais on sent que ça va vers la paix, parce qu'il y a du monde qui se rend compte. On ne parle même pas que du monde se rend compte. Ils se rendent compte à tous les jours. Puis ça veut dire que finalement, ils sont coupables de faire avancer la guerre et le massacre du peuple ukrainien. Moi, j'ai blâmé ces gens-là.
Malheureusement, on vous a tous les trois, Ismaël, Donald et Claude, pour ramener un peu de bon sens dans la discussion. Je vous remercie, ça m'encourage tellement de vous entendre tous les trois.
Alors, c'est bien, Pierre. Mais pour, avant de se laisser, messieurs, c'est-à-dire, il faut dire, parce que Donald a dit que ces gens-là, c'est leur devoir de faire ça, mais sauf que le cœur a ses raisons parfois que la raison ne connaît même pas, parce qu'il y en a qui disent que ces gens-là nous ressemblent, ils ont des yeux bleus comme nous, ils sont civilisés comme nous. Donc, alors là, d'ailleurs, quand on leur reproche, pourquoi n'avait-il pas ces comportements quand on bombardait tous ces gens, quand les Africains, ils disent, mais ces gens-là, c'est des gens qui sont en voiture comme nous, c'est des gens, vous voyez, bon, monsieur,
oui,
19h.
C'est pour ça qu'il faut appuyer la manifestation du samedi 26, appelée par Échec à la guerre, qui met en parallèle ce qui se passe au Yémen, où il y a un tiers de million de personnes qui sont mortes de ce conflit.
Exactement.
Et ce qui est mille fois plus que les morts en Ukraine et qu'il faut que les gens reviennent à la raison.
Merci, monsieur. 19h58. Je ne sais pas comment vous remercier. De toute façon, monsieur, vous faites ce que vous aimez. Vous faites ce que vous pensez être votre devoir. Alors là, c'est le prochain rendez-vous parce que tant aussi longtemps, messieurs, ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas. Je pense qu'on a le devoir, on a la responsabilité, parce que ça ne se trouve pas ailleurs. Claude, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci, merci,
merci, merci Claude, merci Pierre. Portez-vous bien, on a besoin de vous.
Au plaisir.